on va changer de sujet. On parle, là, on reçoit notre collaboratrice à la recherche. Et oui, Clarence Robitaille-Meloche, qui est avec nous tout l'été. Et tu as fait des lectures fort intéressantes. Là, tu nous parles d'un roman, mais aussi, tu vas parler de diversité sexuelle en même temps.
Ben oui, bien sûr, parce que c'est le sujet principal du roman. Donc, c'est un peu difficile d'aborder le texte sans parler de la thématique principale. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de Loveless, qui est un roman d'Alice Osman. Donc, en gros, l'histoire, c'est l'histoire de Georgia, qui a 18 ans au moment du récit, qui commence à réaliser qu'elle n'est peut-être pas hétéro. Et là, au fil du livre, elle commence à comprendre qu'elle n'est pas non plus lesbienne, qu'elle n'est pas non plus bisexuelle, pour découvrir finalement, je ne divulgâche rien parce que c'est écrit sur la quatrième de couverture, qu'elle est en fait asexuelle. Donc, une personne asexuelle, très rapidement, parce qu'on va y revenir tout à l'heure.
Oui, c'est important de peut-être de nous dire exactement ce que c'est. Ouais.
Être asexuelle, on va y revenir, c'est ne pas ou très peu ressentir de désir sexuel. Tout simplement. Donc, c'est une orientation sexuelle comme l'homosexualité, la bisexualité, qui font partie de la communauté LGBTQIA+.
Oui, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est qu'en fait, ça, c'est quelque chose, on a tous entendu parler de ça, mais évidemment, mais pas dans le sens que c'est une orientation sexuelle.
Non.
Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprenais là.
Tout à fait. D'ailleurs, dans le très long acronyme de la communauté queer, le A veut dire asexuel.
D'accord. Alors, et puis on peut dire aussi ace, hein, je pense.
Ace, oui, ça c'est un diminutif,
pour
asexuel. Elle l'utilise dans le livre, d'ailleurs.
Alors donc, c'est ça, ce personnage qui va finalement, au fil du roman, j'en ai lu des parties, qui va donc, avec ses amis, interagir, parler de sexualité, vivre certaines expériences, et puis ben, chacun se découvre peut-être une différence, mais elle va vraiment prendre conscience de ce phénomène-là. Et puis bon, qu'est-ce que toi, tu y vois? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, c'est aussi un spectre, hein? C'est ça.
Tout à fait, parce que il n'y a pas une seule forme d'asexualité, comme il n'y a pas une seule forme d'homosexualité, il n'y a pas une seule forme de bisexualité. Donc, on peut être asexuel, mais avoir quand même du... je ne peux pas dire ça comme ça. Être asexuel et avoir quand même des sentiments amoureux, comme on peut avoir des sentiments amoureux, mais pas de désir sexuel. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à croire que le désir sexuel et l'amour amoureux, ça va ensemble. Et que c'est... Même quand on explique, par exemple, à des enfants, c'est quoi la différence entre des amis et des amoureux, ben on va souvent évoquer le sexe. Tu couches avec la personne que tu aimes, mais tu couches pas avec tes amis. Bon.
Alors, c'est pas si vrai que ça. Il peut y avoir...
Non.
Alors là, on appelle ça aussi, il y a aromantisme.
Aromantisme, oui. Donc, c'est un peu lié à l'asexualité. Donc, l'asexualité, c'est l'absence ou la très petite portion d'attirance sexuelle chez quelqu'un. L'aromantisme, c'est le pas ou peu de désir amoureux. Donc, une personne peut être aromantique, donc ne pas ressentir d'amour amoureux pour quelqu'un, mais quand même avoir une vie sexuelle active.
Ouais.
Comme une personne asexuelle peut ne pas du tout aimer le sexe, ne pas du tout avoir d'envie sexuelle, mais avoir quand même des sentiments amoureux pour quelqu'un. Donc, les deux sont très indépendants. Mais dans le cas de Georgia, dans le livre, elle est asexuelle et aromantique.
D'accord. Alors là, c'est une auteure, évidemment, qui est à la fois très intéressante, cette auteure qui... Ben, il y a une traductrice aussi qui a fait le travail. Et bon, c'est une francophone, bien sûr. Mais parle-moi un petit peu de cette auteure. Et puis aussi, on peut parler également de la littérature jeune adulte. Ça, c'est un autre beau sujet.
Oui, tout à fait. Donc, Alice Osman, c'est une jeune auteure qui est tombée dans la littérature un peu par hasard. Elle a commencé à la base, c'est une BDiste ou quelqu'un qui fait des romans graphiques, et elle a commencé à écrire et à dessiner ses œuvres ou ce à quoi elle pensait. Elle y est allée vraiment dans le young adult typique, et elle les a publiées sur les plateformes Webtoon, qui est une plateforme de romans graphiques, mais par des amateurs, et ça a très, très bien fonctionné. Sa BD Heartstopper a été un très gros succès, tel point que Netflix en a racheté les droits pour en faire une série qui à ce jour, est encore très populaire. Mm-hmm. Ils ont fini leur troisième saison. Et elle est tombée un peu là-dedans. Donc, elle fait vraiment du young adult typique. Donc, le young adult, c'est quoi? C'est de la littérature qui s'adresse spécifiquement aux adolescents et aux jeunes adultes. Tout simplement. Et contrairement à ce que les gens croient, la littérature jeune adulte, c'est une catégorie, ce n'est pas un genre. Parce que dans le young adult, on trouve très bien des romans comme les œuvres d'Alice Hausman, qui sont plutôt contemporaines, plutôt axées sur le sentiment, alors qu'on retrouve aussi des romans comme la série de Percy Jackson ou Harry Potter, qui sont beaucoup plus du côté du fantastique.
Exactement. Je pense à Twilight aussi, hein?
C'est du young adult aussi.
C'est aussi de la littérature jeune adulte, exactement. Et puis, bon, il y en a pas mal, mais bon, puis il y en a aussi un peu... Bon, enfin, on va avoir ce concept de c'est plus que c'est plus que des livres d'adolescence, finalement. C'est plus que ça.
Oui, un peu. Dans le cas d'Alice Hausman, on est d'accord que la structure reste assez typique. On a vraiment tous les personnages un peu typiques qu'on trouve dans les young adults ou dans les coming of age, qui sont des livres qui parlent justement du passage de l'enfance ou de l'adolescence à l'âge adulte, ce qui est un peu le cas dans Loveless. On a une héroïne principale qui est très introvertie, qui est très malhabile socialement, mal à l'aise dans sa peau et qui va se découvrir au fil du roman. On a sa meilleure amie, ici, elle s'appelle Philippa, Pip, mm-hmm. dans le livre, ou Pipe,
ouais.
en anglais. Qui est la meilleure amie excentrique, qui est la meilleure amie avec un fort caractère, qui est aussi un personnage très classique. On a Jason, son meilleur ami masculin, donc qui est vraiment le type parfait. Donc, il est beau, il est gentil, il est intelligent et il est secrètement amoureux de l'héroïne. Donc, ça aussi, c'est une trame narrative classique. On a Sunil, donc le personnage qui est un peu le mentor du groupe. T'sais, il est un peu plus vieux, il a un peu plus vécu. Et c'est lui qui va soutenir Georgia dans sa découverte d'elle-même parce que lui aussi est asexuel. Donc, il peut la comprendre mieux que ses amis qui n'ont pas l'air de trop comprendre ce qui se passe avec elle. Et on a Rooney qui, elle, c'est la meilleure amie aussi, mais c'est la meilleure amie qui est très extravertie, qui semble très à l'aise dans son corps, très à l'aise dans sa sexualité, très sûre d'elle-même. Pour qu'on se rende compte finalement que ce n'est pas exactement le cas. Donc, on est vraiment sur des trames très classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est les sujets qui sont abordés parce que c'est la première fois qu'un roman young adult met en scène un personnage asexuel. Donc, la conclusion, ce n'est pas « Ah, ben finalement, je me suis trompée. C'est pas « Je suis attirée par l'autre sexe. » C'est vraiment « Ah, ben en fait, je n'aime personne et ce n'est pas grave. »
C'est ça. Donc, démystifier cette chose-là et la rendre plus accessible et puis créer une ouverture en même temps sur toutes ces préoccupations des jeunes, ces questionnements également.
Oui, ben, c'est sûr que c'est accessible, ça c'est vrai. Bon, on pourrait reprocher à l'auteur d'avoir gardé dans son texte une structure extrêmement clichée, dans une écriture assez premier degré, assez répétitive aussi. Donc, c'est ce que les critiques négatives lui ont reproché. Et donc, du fait que le seul roman young adult qui parle d'asexualité ne soit pas un roman hyper travaillé, ça n'a pas plu à tout le monde. Ceci dit, c'est parfois agréable d'avoir un roman qui est premier degré, donc qui est facile à comprendre. Mm-hmm. Ça peut être simple.
C'est intéressant. Oui. Donc, c'est une belle suggestion de lecture là, pour des jeunes qui vivent un peu cette situation-là, okay. qui ne savent pas trop se situer, là, personnellement.
Alors, tu parles de jeunes, mais dirais-tu, Clarence, qu'un parent qui se pose des questions, qui essaie de comprendre davantage le milieu LGBTQ+, est-ce qu'il pourrait lire ce livre-là pour essayer d'en connaître davantage?
C'est sûr que c'est un livre qui permet aux gens qui n'ont pas forcément la culture LGBTQ+, de mm-hmm. comprendre, donc... Oui, un parent pourrait s'y intéresser, un parent qui ne s'y connaît pas beaucoup. Bon, encore une fois, quand on lit du Alice Hausman, on ne peut pas s'attendre à un style littéraire très développé. Ce n'est pas Victor Hugo.
Non.
On ne s'attend pas à un style très développé.
Mais pour essayer de comprendre, des fois, tu es mieux de ne pas justement avoir du Victor Hugo.
Non, ouais, il faut que ça reste simple et accessible, comme tu disais.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des personnages de parents dans le livre.
Oui.
Ils ne sont pas aussi présents que les jeunes. On laisse beaucoup plus de place aux jeunes, mais il y a des scènes, justement, où Elise, la cousine, pardon, de Georgia, qui a 34 ans et qui, elle aussi, est asexuelle, sauf qu'elle ne sait pas que ça s'appelle asexuelle. Elle a essayé d'avoir des relations amoureuses, ça marchait pas, elle avait pas envie, elle est mieux seule. Et les parents d'Élise comprennent très mal ça. En fait, ses parents sont très conservateurs, ils ne l'acceptent pas. Donc, ils lui sortent l'argument de « mais comment ça, tu fais pas d'enfant, t'es complètement égoïste, parce que si toi t'as pas d'enfant, nous, on sera jamais grands-parents. » Donc, on se demande qui est égoïste.
Qui est égoïste, ouais.
Qui est égoïste. Donc, ça pourrait peut-être montrer aux parents qui ont un peu ce raisonnement-là de dire « bah, non ».
Okay.
Qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans la tête de votre jeune qui explique son raisonnement à lui ou sa partie de l'histoire?
Donc, ça permet de mieux comprendre. En tout cas, c'est une littérature jeune adulte qui a été vraiment... qui a connu son âge d'or. Enfin, bon, ça a commencé à peu près, je dirais, dans les années 70, là, les années 80. Enfin, il y a eu toutes sortes de thématiques, évidemment, d'adolescents. Mais on sait qu'à partir des années 80, là, ça va devenir des sujets peut-être plus sombres. Hein. On parle de sujets comme... le viol, le suicide, enfin, etc., etc. Mais dans les années 90, là, vraiment, ça explose. Là, de à peu près 250 livres parus dans le monde pour la littérature jeune adulte, ben, on est passé autour de 7000 livres. Alors, ça vous dit, ça vous donne une idée du succès de cette littérature-là. Ben, ça a été intéressant et puis je suis sûre qu'on aura l'occasion de reparler de toute cette thématique au cours de l'été. Un gros merci, Clarence.
Ça fait plaisir.
Merci.
Alors, puis on se retrouve, nous, dès demain, bien sûr. Merci, Nathalie. Alors, une autre belle journée pour nous. Et puis demain, ben, ça continue à Aime l'été. Alors, on sera là entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie. Passez un bel après-midi. À demain, tout le monde.